Hier, on a appris qu'une malédiction serait brisée. Alors, ça sonne comme un conte de fées comme ça, mais moi, j'y vois plutôt, vous me connaissez, une histoire de fantôme. Le film Maudit de Terry Gilliam, l'homme qui tua Don Quichotte, combien de fois entamé, annulé, repoussé, réécrit, retourné, empêché, menacé de ne jamais sortir, j'en passe, et des pires, sera bel et bien projeté en clôture du Festival de Cannes. Plus de 25 ans qu'on l'attend et qu'il résiste, qu'il revient, qu'il hante l'imaginaire du cinéma comme un fantôme. Et je pense à ce texte de Bertrand Bonello qui s'appelle « Film fantôme », où il parle de ces films qui ne se sont jamais faits. Il pose la question « Que fait-on de ces fantômes pervers ?» S'y replonger chaque année, relire les notes, revoir les photos de repérage, se remémorer pourquoi le film ne s'est pas fait, penser au chemin qu'il faudrait reprendre, puis refermer le scénario, non sans en avoir corrigé quelques scènes. Ou alors le faire réapparaître dans d'autres films, par fragments peut-être. Mais il faut pour cela le démembrer et casser sa cohérence. Alors parfois un dialogue ressurgit, une scène, une musique, un geste. Ou alors le laisser comme un bloc de granit au fond de soi. Les films fantômes reviennent sans cesse, écrit Bonello. Et il a cette phrase que je trouve géniale. Ce sont évidemment les plus beaux parce qu'ils ne sont jamais ratés.
Boomerang, spécial Cannes.
Des vedettes qui sourient un peu et un jury qui travaille beaucoup.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Combien de films fantômes mon invité d'aujourd'hui a-t-il en lui ? Dans Plaire, aimer et courir vite, présenté ce soir et en lice pour la Palme d'Or, il raconte l'histoire d'un amour urgent, éphémère, impossible entre un écrivain malade du sida et un jeune breton dans les années 90. C'est son grand retour au Festival de Cannes, 11 ans après les chansons d'amour. Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous en avez des films fantômes, vous, en vous ?
Oui, bah vous savez, de toute façon, tous les films portent aussi une part fantôme, en fait, parce qu'il y a toujours le film dont vous avez rêvé, et puis celui que vous tournez, et même au montage, en fait, à un moment, vous vous privez d'un film pour en offrir un autre. Donc cette idée comme ça que les films sont multiples, en fait. On croit toujours qu'un film, c'est une unité, mais en fait, c'est multiple.
Et puis c'est le surgissement d'images aussi. Le cinéma a quelque chose à voir avec les fantômes, toujours, non ?
Et après, c'est ça. C'est aussi comment vous espérez toujours que vos films soient un peu habités par le fantôme des films que vous avez vus, des cinéastes que vous avez aimés.
Alors quels sont-ils pour vous, ceux qui peuplent votre cinéma, qui vous viennent immédiatement à l'esprit ce matin ?
Bah, je crois de plus en plus et d'une manière assez, qui remplit presque tout l'espace. J'ai l'impression quand même que Truffaut est devenu un cinéaste pour moi, en tout cas qui m'épaule beaucoup, qui m'aide énormément et au moment du tournage et même au moment où je commence à réfléchir à un prochain film, je regarde la filmographie de Truffaut, je me dis tiens après Baiser volé, il a fait quoi, etc. Ouais. Pour essayer de voir comment il joue de l'alternance et ça me guide souvent.
Il y en a des fantômes, Christophe Honoré, dans votre nouveau film. Je pense aux figures de Bernard-Marie Coltès, d'Hervé Guibert, de Serge Danet ou encore de Jacques Demy. Quel sens est-ce que ça avait pour vous de les faire surgir comme ça ? Je vous ai entendu dire un jour qu'ils avaient été des pères pour vous.
En tout cas, ça a été des aînés, ça a été plus des grands frères en fait que des pères, parce que c'était vraiment des gens dont je rêvais de tomber amoureux ou c'est-à-dire j'avais 20 ans, j'étais à Rennes et que ce soit Danet par rapport à la critique de cinéma, Demy ou Collard au cinéma, Guibert ou Coltès
en littérature.
C'est vraiment eux qui m'ont initié et qui m'ont certainement donné ce désir d'écrire des livres, de tourner des films et le fait de ne jamais avoir pu les rencontrer puisqu'ils ont tous été fauchés par le sida. J'en porte un manque, j'en suis assez inconsolé en fait.
C'est une façon de leur parler, ce film ?
Oui, c'est se servir du cinéma à un moment d'une manière utopique pour créer un lien qui n'a pas pu se faire. Et aller les rencontrer, espérer les rencontrer soudain au cinéma.
Vous avez prononcé le mot sida, Christophe Honoré, c'est cet autre spectre qui plane évidemment sur ces fantômes. C'est celui de la maladie, hein, celui du sida dont souffre d'ailleurs le personnage d'écrivain dans Plaire, aimer et courir vite. Comment on fait pour parler de la maladie lorsqu'on est soi-même passé à travers les mailles du filet ? Quelles questions est-ce qu'on se pose inévitablement ? J'ai l'impression que votre film parle de ça aussi.
Oui, parce que je crois qu'en fait, le sida pour la génération, une génération qui a eu une vingtaine d'années dans les années 90. Alors évidemment, si vous faisiez partie d'un, déjà rien que ce mot, cette expression était horrible, de groupe à risque, si vous étiez homo, etc. C'est, peut-être vous le viviez d'une manière encore plus tremblante, mais je crois que c'était partagé par toute une génération. Ça a vraiment été quelque chose, un traumatisme en fait, qui a bouleversé nos vies. C'est-à-dire, c'est pas exactement rien de démarrer sa sexualité, de l'apprentissage de l'érotisme, des histoires d'amour, avec cette idée que l'autre peut être un danger pour vous, mais un danger physique. Et donc c'est vrai que j'avais besoin en fait de reparler de ça. Je crois pas que le sida soit du tout le sujet du film, mais en tout cas ça.
Ce qui est quand même saisissant, dites-moi si je trompe, c'est la troisième année de suite que le sida est présent en compétition à Cannes, ce qui en fait un fantôme aussi, là encore. Je pense autant à Juste la fin du monde de Xavier Dolan adapté de la pièce de Lagarce qu'à 120 battements par minute, qui avait retourné le festival l'an passé. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que le cinéma évoque plus que jamais cette génération disparue, là en l'occurrence?
Parce que je pense qu'on s'est imposé un délai.
Deuil?
Oui, un délai de... On peut dire de deuil, ou en tout cas que les gens qui ont été témoins ou qui et pas victimes du sida ont pensé à juste titre, et j'en fais partie, que les récits des malades étaient prioritaires pendant un moment, et qu'il a fallu attendre une vingtaine d'années en fait avant de réussir à exprimer quelque chose de très subjectif qui était qui échappait un petit peu, on va dire, à ces récits-là. Et puis, je crois aussi que d'une manière beaucoup plus pragmatique, tout simplement, il y a un certain nombre de cinéastes qui approchent de la cinquantaine et qui soudain ont la tentation de faire un film sur leur jeunesse, et oui, bim, ça tombe en fait sur les années 90, et on peut difficilement parler de ces années-là sans évoquer le sida.
Vous aviez 20 ans, vous, Christophe Honoré, quel regard est-ce que vous posez sur celui que vous étiez alors?
C'est très étrange parce que le film essaye de rendre compte de ça. C'est à la fois, j'en ai une mémoire vraiment vivace. C'est-à-dire, je me revois à Rennes. Je pourrais redécrire les après-midi où j'allais au cinéma, où je rejoignais mes amis ensuite, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est une personne que je n'arrive pas à raccorder en fait à la personne d'aujourd'hui. Et je vois bien que dans mes livres et dans mes films, je ne cesse justement d'essayer d'évaluer le ce qui nous relie, et enfin d'évaluer de le regarder, de l'observer, mais ça commence à être englouti dans un passé qui m'échappe.
Pourtant il y a un point d'accroche, c'est le cinéma, la salle de cinéma. Il se trouve que c'est dans un cinéma que vos personnages se voient pour la première fois. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce lieu, le théâtre de cinéma, si on peut l'appeler comme ça?
Je sais pas, c'était un lieu... C'est tellement étrange, pourquoi certains gamins de 12-13 ans, à un moment, alors que leurs copains vont jouer au foot ou faire d'ailleurs toute autre chose, c'est un peu un cliché de jouer au foot, et pourquoi il y en a d'autres qu'il faut qu'ils aillent au cinéma? Et moi, il fallait que j'aille au cinéma. J'étais dans un tout petit village en Bretagne, et je me souviens, le Ciné-Braise à Rostrenin, et le vendredi soir, en fait, en général, il y avait une deuxième séance à 23h où c'était des films un peu plus d'auteurs, et j'étais tout le temps fourré là-bas, comme des gens, j'imagine, des jeunes parisiens étaient tout le temps fourrés à la cinémathèque.
Ça vous est arrivé de vous dire que les films étaient plus passionnants que la vie? C'est une hypothèse que vous évoquez.
Et d'ailleurs, Vincent Lacoste répond, que les films sont plus cons que la vie, des fois. En tout cas, il y a quelque chose qui est certain, c'est que le cinéma, soudain, on pourrait penser que c'est un repli sur soi, alors que je crois que c'est exactement l'inverse. C'est juste qu'à certains moments, des adolescents comprennent que c'est là où le monde va pouvoir leur être donné. Et je crois beaucoup à ça, en fait, au cinéma qui nous permet soudain de comprendre un peu avant que la vie, avant d'expérimenter dans la vie, de comprendre quelque chose de la vie qu'on n'a pas vécu.
Celle qui s'ouvre dans cette émission, peut-être la connaissez-vous, Christophe, c'est la culture et son actualité mille pattes, qui même lorsqu'elle chute de très haut, retombe toujours sur ses pattes. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 10 mai?
<t'->
Colère chez nos auteurs, alors que doivent s'ouvrir le 22 mai prochain les premiers états généraux du livre pour discuter du statut social et fiscal des auteurs, le Conseil permanent des écrivains déplore le silence du gouvernement. Hier, dans une lettre ouverte adressée au président de la République et au Premier ministre, il note l'absence de réponse à leur invitation et craint un total désintérêt à l'égard des 270 000 artistes auteurs français. Point levé.
C'est Ben Alaïa fils, mais le nom c'est Alaïa.
He was my papa.
Alaïa, Alléluia, le Design Museum de Londres inaugure aujourd'hui Azzedine Alaïa de Couturier, rétrospective événement consacré au maître franco-tunisien, disparu en novembre dernier. Jusqu'au 7 octobre, on y découvre une sélection de 60 silhouettes iconiques, choisies par le couturier lui-même juste avant sa disparition. Résultat, 35 ans de rébellion couture et d'anticonformisme sur mesure à mur. Never forget about Dre, le patron du rap West Coast américain. Dr. Dre semble de retour pour de bon. Hier, un morceau inédit de son troisième album solo Detox, en chantier depuis 18 ans, a fuité sur le net. Grosse percu, piano hypno. La prod s'appelle 12 Steps to Recovery et nous donne un peu d'espoir quant à l'éventuelle sortie prochaine de cet album attendu comme le Messie.
Je voulais savoir qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce qui se passe, c'est comment l'atmosphère, c'est quoi,
Alors Sophie, aujourd'hui à Cannes, outre l'entrée en compétition du film de Christophe Honoré, notre invité, et celle de Cold War du polonais Paweł Pawlikowski, le festival fait la part belle aux femmes du 7e art. Pour la quatrième fois, les talks Women in Motion mettent en lumière la contribution de celles qui font l'industrie cinématographique, tant devant que derrière la caméra. Aujourd'hui, c'est l'actrice britannique Carey Mulligan qui ouvre le cycle de rencontres You Go Girls. Christophe Honoré, donc invité de Boomerang ce matin pour plaire, aimer et courir vite en salle aujourd'hui, projeté ce soir en compétition à Cannes, où vous faites, on le disait, votre retour 16 ans après 17 fois Cécile Cassard, 11 ans après les chansons d'amour en sélection officielle. Ce qui est intéressant, c'est que ce film, après les métamorphoses et les malheurs de Sophie, c'est un retour à une forme de récit plus intime, plus réaliste, j'ai l'impression. Vous en ressentiez le besoin de ça?
Oui, en tout cas, j'avais envie de revenir à un récit à la première personne et d'essayer de je sais pas, parce que c'est assez facile finalement quand vous écrivez un scénario d'écrire des choses très personnelles, très intimes et du coup de pas fabriquer, on va dire, soudain des émotions ou des sentiments. Et puis souvent quand vous êtes sur un plateau de tournage, bah il y a le corps des acteurs, il y a la lumière, etc. Et puis vous oubliez en fait cette espèce de sentiment très particulier en fait que vous avez créé au moment de l'écriture.
Qu'est-ce qui se passe tout autour, effectivement, y compris pendant l'écriture? De quelle urgence est-ce qu'il est né, ce film? Comment ça a commencé au tout début, pour qu'on comprenne?
Le tout début, c'est atroce parce que j'ai pas envie de leur donner ce, mais si, c'est la manif pour tous, c'est-à-dire que c'est vraiment cette idée à un moment où, quand j'ai vu tous ces gens dans la rue et au moment des lois en fait pour le mariage pour tous, je me suis reproché quelque chose, vraiment. Je me suis dit, tu t'es aveuglé, et j'ai pensé que, en tout cas, j'avais une responsabilité en tant qu'artiste homosexuel à un moment de peut-être pas avoir raconté certaines histoires en me disant c'est pas le sujet. Enfin, je sais pas comment dire ça.
Une responsabilité.
Oui, parce que je pense qu'on a déserté un terrain, l'imaginaire des gens, et je pense que c'est vraiment sur l'imaginaire des gens que ça se joue principalement, où on s'est aperçu soudain que l'homosexualité, pour plein de personnes dans leur imaginaire, c'est construit avec un nombre de clichés, de stéréotypes qui sont très dangereux. Et je crois qu'écrire des livres ou faire des films et à un moment proposer justement nourrir cet imaginaire avec quelque chose de plus vivant, de plus contradictoire, c'est important. Et je me suis dit que j'avais pas été assez vigilant là-dessus. Et je crois que c'est vraiment là où j'ai décidé, en tout cas, de faire ce film-là et qu'il soit le plus subjectif et le plus proche de moi possible.
Il y a eu des doutes, des découragements, des déceptions et des moments où vous avez cru que vous ne le feriez pas.
Bah oui, la destinée des films est assez étrange. Vous savez, il y a un an, j'étais à 3 semaines de tourner ce film. Je venais de perdre l'acteur qui devait jouer dans le film. On avait, d'un point de vue financier, le film était aussi difficile à monter. Et puis un an après, la destinée d'un film, en fait, c'est toujours assez surprenant.
Et qu'est-ce qui vous a fait tenir alors? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se fasse?
Je crois que c'est les acteurs qu'on oh, ça fait un peu grandiloquent de dire ça, mais
ah, ça peut arriver.
Les acteurs ont sauvé, ouais, dans mon idée, ils ont sauvé le film. En tout cas, ils l'ont amené, ils ont apporté une énergie, une force au film au moment où moi j'en manquais un peu, et je pense que ça se ressent aujourd'hui en fait dans le film, c'est-à-dire qu'à un moment ils s'en sont emparés, et c'est toujours une bonne nouvelle quand c'est les acteurs qui sont aux manettes d'un film. Still.
Bon, j'ai rencontré un Parisien. Bon, je suis amoureux, voilà. Il s'en fout de moi, je pense, mais je suis persuadé que je vais faire changer d'avis.
Allez, viens, je vais à Rennes voir mon Breton bizarre.
Just one moment.
Tu tombes mal, je peux pas me permettre une dernière romance.
Je pars vivre à Paris. Vous allez me manquer. Qu'on pourrait se faire une belle vie tous les deux.
Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamp, dans Plaire, aimer et courir vite, Christophe Honoré, sont exceptionnels. Et on l'entend un peu, ce film, c'est aussi l'histoire d'un jeune garçon qui part vivre à Paris, tout comme l'a fait avant lui l'écrivain dont il tombe amoureux. Quand vous aviez 20 ans, ça représentait quoi, Paris, pour vous?
Bah, Paris, pour moi, c'était le cinéma. J'ai toujours eu le sentiment, en fait, parce que déjà, mon goût pour des films de la Nouvelle Vague qui se passaient évidemment à Paris, à un moment, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que le personnage de Pierre Deladonchamp dit « Mais il va bien falloir monter à Paris, mon petit, parce que si vous restez en Bretagne, à part devenir le Pagnol armoricain, vous allez pas devenir grand-chose. » Et en même temps, il dit « Ce serait finalement une assez belle ambition. » C'est vrai que j'aurais bien aimé réussir. Bon, je pense que je serais jamais le Pagnol breton.
Et ça revient dans le film. Hein. Il y a un moment aussi où certains des amis du jeune homme essaient de le décourager en lui disant « Paris, c'est pas pour nous. » Qu'est-ce qu'elle traduit, cette phrase « C'est pas pour nous ?»
Ben, c'était un scandale, un scandale, c'est pas un scandale, mais en tout cas, moi, j'appartenais à une famille où aller à Paris, c'était dangereux, et c'est pour ça que je suis arrivé tardivement à Paris. Moi, je suis arrivé qu'à 25 ans, j'avais une famille quand même qui me retenait, et puis je crois surtout les gens voulaient me préserver de la désillusion, c'est-à-dire que...
Désillusion toute romanesque, Christophe Honoré, à nous de Paris.
Ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que mais j'imagine la même chose, j'en sais rien, non, c'est très différent, mais en tout cas, quand vous avez 15-20 ans et que vous dites à vos parents je veux devenir cinéaste, et que eux sont pas du tout de ce milieu-là, et donc ils se disent le pauvre petit, quoi, qu'est-ce qui va lui arriver une fois arrivé là-haut, je connaissais personne, j'avais pas fait d'école, donc je pense que les gens me préservaient en fait du mal qu'ils imaginaient que j'allais bientôt ressentir, en fait, à pas pouvoir vivre et vivre mes rêves.
Et rien, personne n'aurait pu vous faire douter?
Ah, je doutais énormément, mais il n'empêche que j'ai été chanceux, et puis j'étais très entêté. Effectivement, j'avais l'impression que c'était forcément au cinéma qu'il y avait une place. Et je dis ça, et c'est très étrange, parce qu'aujourd'hui, en revanche, ma place dans le cinéma français, je me sens toujours très cousine de province. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est pas une place, en tout cas, où je me sens si à l'aise que ça, donc j'ai toujours un peu un sentiment d'imposture quand même. Mais j'imagine pas ce que j'aurais pu faire autrement.
Si ça se trouve, Christophe Honoré, c'est un catalyseur de création, le sentiment d'imposture, le doute. Et vous savez bien qu'ici, on les aime, les gens qui doutent, tout comme Anne Sylvestre, qui les aimait déjà en 1977 et dont vous jouez la si belle déclaration dans votre film. Vous êtes sur France Inter avec Christophe Honoré. Vos seules certitudes ce matin, c'est que vous écoutez Boomerang à Cannes.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Boomerang à Cannes.
Le festival arrive à transformer du béton en carton-pâte.
Augustin Trapenard.
Il y a ce sur petit côté. Inter. Il y a ce petit côté grizzly, vous savez, une sorte de géant à l'air un petit peu mal léché, au poil grisonnant, regard broussailleux, prêt à vous donner un coup de patte, un coup de dent, ben un petit coup de pied pour vous arracher votre petit pot de salidou, très élégant. Ce matin, pantalon bleu marine, chemise blanche, tennis décontracté, Christophe Honoré, invité de Boomerang, pour plaire, aimer et courir vite, présenté aujourd'hui en compétition officielle à Cannes. Et dans ce film, Christophe, vous ne vous contentez pas de nous raconter une histoire d'amour, vous mettez également en scène certains mécanismes du désir. Et là, je pense tout de suite à une scène en particulier. C'est une scène de drague, nocturne et silencieuse, dans un parking, où les déplacements des personnages et leurs échanges de regards sont, pour ainsi dire, chorégraphiés. Comment est-ce que vous l'avez conçu, cette scène ?
Tout à fait comme une chorégraphie, justement. C'est-à-dire que j'aimais cette idée. C'est-à-dire que pour moi, en fait, j'en ai pas un souvenir du tout glauque, par exemple. Je trouvais que c'était toujours très, très gracieux.
Vous voulez dire de la drague ou du tournage ?
Bah, du tournage, mais aussi de la drague. C'est-à-dire que je trouvais ça... D'où, en fait, quand vers une heure du matin, soudain, il y avait des endroits dans toutes les villes un peu clandestins où vous saviez que vous alliez peut-être pouvoir frôler quelqu'un, embrasser quelqu'un et puis rentrer dormir chez vous. Et c'était des toutes petites histoires d'amour, mais qui étaient l'inverse, en fait, de ce que, justement, les gens projettent sur de glauque, etc. J'ai toujours vu ça comme quelque chose de très doux. Bon, très doux s'il n'y avait pas des casseurs de PD qui débarquent et s'il ne fallait pas détaler. Et donc, du coup, j'ai voulu qu'il y ait quelque chose comme ça, comme un protocole, en fait, qui soit raconté dans cette séquence-là avec Vincent Lacoste. Et puis, c'était une des premières scènes qu'on tournait aussi avec Vincent. Et donc, c'était une manière pour moi de le prendre par la main et de le rassurer aussi en lui disant tout va bien se passer.
Il y a quelque chose de très théâtral dans cette mise en scène du désir, de doux aussi, mais de théâtral. Et je me demande en quoi est-ce que votre approche de la mise en scène au cinéma, elle a été influencée par le théâtre, Christophe ? En quoi est-ce qu'il est central ? En quoi est-ce qu'il est partout, le théâtre ?
Le théâtre, mais d'une manière un peu plus large, je crois que c'est la littérature, c'est la force du cinéma français. Enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est qu'elle... il est souvent lié à la littérature, mais pas pour en être asservi. Au contraire, je pense que c'est la friction entre le cinéma et la littérature, c'est cette idée du théâtre. On a souvent en tête comme ça qu'il faut absolument que le cinéma échappe au théâtre. Et en même temps, quand vous avez la chance d'avoir des acteurs qui soudain, effectivement, s'emparent d'un film, et là, avec Pierre de La Donchamp, Vincent Lacoste.
Mais aussi Denis Podalydès.
Denis Podalydès. Je les lançais en fait dans des séquences où la théâtralité, c'est-à-dire le fait d'être plutôt en plan séquence et de les laisser habiter l'espace en fait, sans que ce soit le montage qui vienne redonner du rythme, etc., vient effectivement d'un goût pour une présence d'acteur qui ressemble à une présence sur scène.
Moi, j'ai pensé, pendant tout le film, je vais vous dire, à un auteur que vous avez cité au début de cette émission, Bernard-Marie Coltès, et sa pièce Dans la solitude des champs de coton. La découverte de Coltès et de ce texte, quel choc est-ce que ça a été pour vous ?
C'était au lycée, je me souviens. C'était... c'est comme vraiment de tomber amoureux, c'est-à-dire que c'était une attraction, voilà. C'est-à-dire que soudain, j'avais l'impression, il y avait ses couvertures de minuit, il y avait son nom que je trouve incroyablement romanesque, et puis ses textes qui, et pourtant, il parlait a priori d'univers qui était très très loin de ce que je vivais, mais où je m'y sentais. Absolument chez moi en fait, et là il y a vraiment une espèce d'idée comme ça que c'est un grand frère dont on rêve, enfin on a envie que ce soit lui qui nous ouvre aux autres, au monde, à la vie, et d'apprendre sa mort. Je me souviens l'avoir vu dans L'homme blessé aussi, il avait un mini rôle presque de figuration où il embrassait comme ça un garçon dans un couloir de métro, et c'était pour moi une espèce d'image de beauté, de tout en fait, et d'apprendre qu'il meurt du sida, et il meurt tôt, Koltès, il meurt vraiment à la fin des années 80. C'est déjà le début de la désillusion, c'est le début de la disgrâce en fait pour moi.
Vous le citez dans le film. La seule et vraie cruauté n'est pas celle d'un homme qui en blesse un autre. La vraie et terrible cruauté est celle de l'homme qui rend l'homme inachevé, qui l'interrompt comme des points de suspension au milieu d'une phrase, qui se détourne de lui après l'avoir regardé, qui fait de l'homme une erreur du regard, une erreur du jugement, une erreur, comme une lettre qu'on a commencée et qu'on froisse brutalement juste après avoir écrit la date. Pourquoi ce passage ?
C'était mon sentiment, justement, cette idée d'avoir eu l'impression que des gens me regardaient, mais en plus c'est un peu fou, parce qu'évidemment quand vous êtes spectateur ou lecteur, vous pouvez pas vous empêcher de penser que l'écrivain ou cinéaste vous regarde, alors oui. qu'il ne sait rien de votre existence. Et puis, comme si quelqu'un avait commencé à vous écrire une lettre, et je ressentais cette cruauté, le fait qu'il détourne le regard. Alors ce qui leur fait détourner le regard, là, ça a été la mort. Donc c'est une cruauté dont on peut difficilement leur reprocher, cette cruauté-là. Vous voyez, c'est ça aussi qui a été compliqué pour moi. C'est-à-dire que ces artistes qui ont tellement compté, au moment où j'ai écrit après un premier livre ou fait un premier film, normalement j'aurais dû me construire aussi contre eux. Et j'aurais eu besoin à un moment de brûler mes idoles, peut-être dans un sens, mais je pouvais pas le faire.
Vous les embrassez ici.
Il y avait cette idée-là, en tout cas, c'est pas une jolie expression, mais quand même de payer sa dette et de faire en sorte de proposer un film en fait où, qui est peuplé par eux et qui dit que je les oublie pas et qui sont encore très très importants aujourd'hui. Et moi, je suis toujours inconsolé de pas avoir les pièces de Koltès. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait écrit aujourd'hui? Qu'est-ce que Guibert aurait écrit aujourd'hui? Quels auraient été les derniers films de Jacques Demy?
Parce qu'il y a aussi la légèreté d'un Jacques Demy. Et il faut le dire aux auditeurs de France Inter, on rit énormément dans ce film, effectivement.
Il fallait que ce soit un chagrin heureux, en fait. Et c'est là où des gens comme Vincent Lacoste, ou Denis Podalydès, ou même Pierre, qui a énormément d'humour, Pierre de Hadonchamp, en fait, m'aident vraiment à redonner une énergie dans le film et à ce que ce ne soit jamais solennel, en fait.
Qu'est-ce
je me méfie
vous rend
de ça.
Léger, vous? Christophe Honoré.
Qu'est-ce qui me rend léger? C'est toujours l'art, en fait, qui me rend léger. C'est-à-dire un bon film, un livre qui me passionne. En fait, soudain, ça, je sais, plus c'est profond, en fait, plus, du coup, j'arrive à m'extraire de la lourdeur de la vie. L'idée de la beauté, en fait, est à la fois peut me terrasser, mais finalement me rend léger et joyeux.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Plaire, Aimer et Courir vite avec les merveilleux Pierre de Hadonchamp, Vincent Lacoste et Denis Podalydès notamment, est en lice pour la Palme d'Or. Il sera projeté ce soir à Cannes. Il sort aujourd'hui au cinéma. Merci Christophe Honoré. N'oubliez pas d'écouter la web radio que France Inter dédie au Festival de Cannes, parce qu'elle est vraiment formidable. Aujourd'hui, par exemple, à 10h et à 20h, la leçon de cinéma de Martin Scorsese en partenariat avec la quinzaine des réalisateurs. Ça s'appelle Écouter le cinéma et on en est là.